semble bien que le M23 semble être de plus en plus poussé vers un espace assez réduit tout près de la frontière rwandaise. Mais ceci pourrait également signifier la fin d'un épisode, c'est-à-dire la fin des actions du M23. Cela dit, il faut évidemment être prudent puisque l'armée congolaise, comment dire, a eu des gains par le passé qui par la suite ont été défaits. Mais je pense tout de même que la différence avec le passé est assez grande. Le M23 semble subir un échec tout à fait considérable.
Pour vous, c'est un tournant dans le rapport de force entre Kinshasa et la milice du M23?
Je crois que oui, c'est nettement mon impression. Si évidemment le M23 n'était pas renforcé comme cela a été le cas par le passé, par le Rwanda, mais je pense que pour le Rwanda, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile d'être vu aux côtés du M23 que par le passé, tout simplement parce que ses alliés, et notamment les Américains, ont signifié de façon très claire au président Kagame que tout soutien au M23 était inacceptable. Donc il sera difficile pour le Rwanda de le faire de façon visible, me semble-t-il.
Il y a quelques jours, pourtant, le Rwanda a accusé Kinshasa d'avoir bombardé son territoire et a menacé des représailles directes en territoire congolais. Pour vous, c'était la politique de la menace pour montrer que finalement on est en position de faiblesse?
Ce n'est pas la première fois que le Rwanda menace d'intervenir directement au Congo pour cette raison-là. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le Rwanda amasse des troupes à ses frontières avec le Congo. Le seul avantage que le Rwanda pourrait avoir en faisant cela aujourd'hui, c'est que cela pourrait peut-être obliger les forces armées congolaises de retirer une partie de leurs troupes de l'offensive contre le M23 pour protéger, sécuriser leurs frontières avec le Rwanda, ce qui affaiblirait probablement l'offensive contre le M23.
Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce lundi pour évoquer notamment la crise en RDC. Paris en particulier demande le désarmement et la démobilisation du M23, mais aussi de toutes les milices, tous les groupes armés qui sévissent dans la région. Est-ce que c'est réaliste ?
Mais cela devra être fait. À supposer, ce qui n'est pas encore dit aujourd'hui, mais à supposer que le M23 soit éliminé ou neutralisé comme menace, cela ne signifie pas que l'autorité de l'État congolais soit rétablie sur l'ensemble de son territoire et notamment à l'Est. Il y a un mouvement rebelle Hutu rwandais qui sévit dans cette région, le FDLR, et il y a 10, peut-être même 20 autres groupements armés non étatiques, des milices ethniques de toutes sortes, des groupements Mai-Mai qui continuent à occuper des portions parfois assez réduites du territoire congolais, mais qui en tout cas montrent que le gouvernement congolais ne contrôle pas ce territoire. Donc si le M23 était défait aujourd'hui, il faudrait, avec l'appui de la communauté internationale, que le Congo puisse rétablir son contrôle territorial, y compris vis-à-vis d'autres groupes armés non étatiques, me semble-t-il.
Est-ce que, Philippe Renchens, le début d'une solution ne passerait-il pas par un embargo sur les armes de la part de la communauté internationale ?
Il y a un embargo, hein, mais cet embargo, évidemment, est contourné. Parce que, par exemple, il n'y a pas d'embargo vis-à-vis de l'armée nationale ou des forces armées de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas à la fois demander qu'ils rétablissent l'autorité de l'État, mais ensuite, au même moment, les priver d'armes. Il n'y a pas non plus, ne l'oublions pas, il n'y a pas d'embargo vis-à-vis du Rwanda, dont on sait qu'il a fourni des armes et des munitions, et même des troupes au M23. Les groupes non étatiques, donc les groupes armés, rebelles et autres, à l'est du Congo, sont en principe frappés par cet embargo, mais qui évidemment n'est pas un embargo étanche. Et il sera très difficile de le rendre étanche si les États de la région ne coopèrent pas, et si par exemple, très, très concrètement, si un des États de la région, en l'occurrence le Rwanda, et peut-être dans une moindre mesure l'Ouganda, continue à fournir en armes et munitions des mouvements rebelles au Congo.
Aujourd'hui, selon vous, de quoi a besoin la République démocratique du Congo pour restaurer cette autorité de l'État ?
Il faudrait d'abord une volonté politique à Kinshasa, et je crois qu'elle fait parfois défaut. Je n'ai pas toujours l'impression que les élites congolaises ou ceux qui sont au pouvoir au Congo sont très intéressés par la reconstruction étatique, parce que ça ne les intéresse pas forcément. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de distinction entre le trésor public et les comptes en banque privée, ben, ça intéresse ceux qui ont des comptes en banque privée et qui pillent les ressources de l'État. Donc il faudrait d'abord cette volonté politique à Kinshasa. Primo, deuxièmement, il y a un certain nombre de mesures qui me paraissent évidentes. C'est la reconstruction étatique et, je veux dire par là, par exemple, le contrôle territorial. Et cela ne signifie pas seulement un contrôle territorial militaire, mais également administratif. Il faut restaurer l'administration au Congo. Il faut que de privé, la fiscalité devienne publique. Il faut un minimum d'état de droit, ne fût-ce que pour attirer les investisseurs, puisque le Congo a les moyens de financer son propre développement. En d'autres termes, il faut qu'un minimum, et ça prendra du temps, après une destruction étatique, je veux dire, qui a débuté, disons, au début des années 1970, sous Mobutu, cela prendra beaucoup de temps, beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent aussi pour reconstruire cet État. Mais c'est ça le prix pour le développement du Congo et la stabilité régionale.